qu'il y aurait d'autres appels d'offres aussi importants et que cette fois-ci, il ne faudrait pas les rater.
Je fais des collections de pochons, etc. etc.
Pochons, on n'aura plus de main pour tenir son micro.
France Inter, jusqu'à 18h, un temps de pochons.
Moteur, moteur. Vas-y, l'ours.
Vas-y, viens.
Vas-y, pochon. Tu le vois, pour le camp.
Ah oui, je travaille pas pour rien, moi.
On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Là, il y a pochon qui va se faire bouffer par l'ours. Attention.
Il fait rigoler quand même, hein, pochon.
Quoi? Le temps pochon? On se retrouve lundi. Pochon va monter dans l'arbre, ce gros con.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter. L'heure de retrouver Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Trop de vent, trop de pluie où je suis pour entendre les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis aujourd'hui. Ce sera pour demain. N'oubliez pas le numéro de la boîte vocale de Là-bas si j'y suis. 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, un morceau choisi dans cette année de Là-bas si j'y suis, un morceau ou plutôt un mot, profitation. Profitation, vous vous souvenez, LKP, Lianage contre profitation, la contestation en Guadeloupe au début de cette année aura marqué, au moins par ce mot, toutes les préoccupations sociales, politiques et économiques qui nous hantent et qui nous agitent. C'était une occasion pour nous de découvrir, pour certains, et de redécouvrir une page oubliée de l'histoire de la Guadeloupe, mai 1967. Les massacres de mai 1967, au moins 87 victimes officiellement reconnues, beaucoup plus évidemment selon les historiens locaux et dans la mémoire de certains Guadeloupéens. Certains ignorent ce qui s'est passé ces jours-là, et ça montre bien, s'il en était besoin, un certain mépris pour ce lointain confetti de notre empire. En tout cas, ça a été l'occasion de retracer cette histoire, et je vous propose de la retrouver aujourd'hui dans Là-bas si j'y suis.
Sacrifice à ça qui tombait, à génération à ça qui tombait, ici là même, en mai 67.
Alors, revenons à 1967.
Oui.
Les négociations ont lieu là. La foule est massée. Enfin, le public, le soutien populaire et syndical est là. Les lambis, le tas de lambis est là. Les gros coquillages. Voilà. Et la sous-préfecture est en face.
Pointe à pitre.
Voilà. Avec déjà, si vous voulez, quand même un certain nombre d'hommes armés qui s'y trouvent.
Julien Mérillon.
Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une arrivée massive.
Historien.
De militaires. Venant de deux côtés, de là et de là. Ce qui a le don, bien évidemment, d'excéder la population. À l'époque, c'est des gendarmes, on les appelle les képis rouges.
Les képis rouges,
parce qu'ils avaient un bandeau rouge sur leur képi. Et c'est eux qui interviennent. Ils seront secondés ensuite par les CRS. Et qui a tiré le premier? Est-ce une conque à lambi qui est partie? Peu importe. Toujours est-il que la première victime est morte là, à peu près. Par ici, c'est Jacques Nestor.
À nos pieds, quoi.
À peu
Jacques
près,
Nestor.
Oui, oui, Jacques Nestor. Il fait partie des gens qui soutiennent le mouvement et c'est un militant connu du GONG, du groupe d'organisation nationaliste de la Guadeloupe, qui vient d'être créé. Et il est là, alors a-t-il
c'est
été
le
visé?
Jacques Binot de l'époque.
Voilà. Oh. Mais enfin, à part lui, ça a été clair que c'est les CRS qui ont tiré sur lui.
Ouf.
Donc on lui tire dessus, il tombe là, alors, on tente de le ramener à l'hôpital et bien évidemment, quand il arrive, c'est trop tard, la colère monte, les gens, bon, ils tirent sur les... CRS qui occupe la ville.
Les gens sont armés.
Non, ils tirent
leur lambi.
Bon. Ouais, et ce n'est que plus tard maintenant que les jeunes vont piller des armureries. Il y avait une armurerie qui était là, le Valois. Elle est pillée par les jeunes qui descendent des quartiers donc et qui, bien évidemment, vont commencer eux aussi à riposter. Et à partir de ce moment-là, ce qui au départ était un affrontement entre les ouvriers, le patronat avec l'État interposé, devient une espèce de mouvement de protestation de la jeunesse. Et c'est la jeunesse printoise et des environs qui va occuper la rue, mener une véritable bataille de harcèlement, etc. Et là, on va commencer à tirer sur tout ce qui bouge. Tu es là, sur la rue Alexandre Isaac, là-bas, là, on en tuera un peu partout.
À génération, à ça qui tombait, ici là même, en mai 67.
Il y a un premier chiffre, qui est le chiffre de la préfecture, qui est publié. Dès le samedi, il fait état de 8 morts. Personne n'y croit.
Camarades, Donc à continuer marcher en silence.
Et nous arrivions juste à côté du boulevard et brusquement, on voit arriver des camions qui tirent.
Il y a donc un certain nombre de CRS qui débarquent et qui tirent sur la foule.
Donc à continuer, tournez à l'entour à la place.
Une balle en pleine tête, Omer Tidas tombe. C'est vrai que depuis 67 ans, j'ai dans la tête ce bruit de fusil.
À ça qui tombait en mai 1967.
Alors, une véritable bombe interviendra en 1983, lorsque le ministre de l'Outre-mer, M. Lemoine, va déclarer que selon les sources et les éléments dont il dispose, il y aurait eu 87 morts.
Salut, c'est Daniel Mermet, la Bassie J'y suis, avec Antoine Chao, Guadeloupe, mai 1967.
Flight number 2, arriving from New York.
Coudrieux, Coudrieux, C-O-U-D-R-I-E-U, Solange Yvon Coudrieux.
Solange, mais c'est un prénom de femme. Ça fait combien d'années qu'on vous dit ça?
Ah ben, ah oui, j'ai toujours entendu. Mais il y a beaucoup de Solange ici. On trouvait des Solange, des Nicole.
Oui.
Le prénom de fille. Je crois que c'est l'homme que l'on voit avant tout et non le sexe. Je veux dire.
Oui. Alors Solange, donc, on est en train d'essayer d'évoquer ce que furent ces journées de mai 1967. On découvre quand même une page oubliée, hein, une page passée sous silence. Alors. Certainement plus ici, à Pointe-à-Pitre, et certainement plus en Guadeloupe, mais en tout cas, largement dans l'Hexagone, on ignore cette page-là. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Alors vous, vous êtes un témoin de ces journées.
Je suis un témoin de ces journées, mais avant de commencer, je vais dire ceci. Et je témoigne chaque fois par respect et solidarité pour toutes les innocentes victimes des vendredis 26, samedi 27 et 28 mai 1967. Je témoigne parce que ceux qui étaient en Guadeloupe à cette époque-là ont fait le silence ou on nous a masqué ces événements. Or, c'est une page d'histoire de notre pays que nous devons connaître nécessairement. Je témoigne aussi pour ceux qui étaient ici, mais très jeunes. Ils ne pourront rien savoir si nous ne témoignons pas, si nous ne disons rien. Et puis, je témoigne aussi pour ceux qui n'étaient pas en Guadeloupe et qui ont bien le droit de savoir.
Camarades, on va continuer à marcher en silence. Donc marcher à l'alliage, à trois générations sacrifiées. Les premiers qui vont entrer entre 1801 et 1802. Deuxième en 1967. Et troisième là en 2009.
Avec son porte-voix, ce militant harangue les manifestants qui tournent en rond autour de la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et il y en a beaucoup de choses sur cette place de la Victoire, beaucoup de symboles si on tourne en rond avec eux, avec ces manifestants. On voit le monument aux morts, aux morts de la guerre de 1914-1918. On voit l'Office du tourisme qui était à l'époque qui nous intéresse en 1967, la Chambre de commerce et d'industrie, là où eurent lieu des négociations qui n'aboutirent pas entre les travailleurs en grève, les travailleurs du bâtiment en grève, qui demandaient au MEDEF de l'époque une augmentation de 2,5%. Si on continue à se tourner, on voit un petit marché là-bas au coin, près du quai. Et sur ce marché, il y avait des accumulations de lambis. Vous savez, ces gros coquillages. On mange l'intérieur du coquillage et après, il reste ce magnifique coquillage. Magnifique, il a servi de pavé à l'époque, en 67. De pavés qui furent lancés sur la tronche des gardes mobiles et des CRS. Si on continue, on aperçoit, c'est plus discret, un monument en hommage aux Indiens de l'Inde qui, à partir de 1848, sont venus vendre pas cher leur force de travail aux plantocrates, Oui, à la plantocratie, déçue de l'abolition de l'esclavage et qui avait besoin de muscles et de sang frais. Ce furent les muscles et le sang frais des Indiens de l'Inde, de nos comptoirs. Un peu plus loin, au fond, on aperçoit la fameuse fresque qui a été inaugurée il y a si peu de temps et qui rappelle ces événements à gauche de la fresque. Les policiers, les forces de l'ordre, tirent sur les manifestants. Et celui qui s'éclate de sang et de mort, c'est Jacques Nestor, un militant du gong, du GONG, dont on va parler. Si on continue encore, si on se retourne et qu'on continue de contourner la place de la Victoire, il y a la sous-préfecture, c'est un haut lieu aussi de la vie de Pointe-à-Pitre. Et puis, il y a la place elle-même, circulaire. Et au milieu de cette place, se tint la guillotine. Ah, grande affaire, la guillotine qui fut amenée de France pour couper le cou de ceux qui étaient les maîtres du pays à l'époque. Je dis pays parce que l'auditeur m'a dit « mais c'est pas un pays, c'est un département ». Pourquoi est-ce qu'un département ne serait pas un pays de ce pays ? Beaucoup de choses, beaucoup de symboles et beaucoup de douleurs fantômes. Vous savez ce que c'est une douleur fantôme ? Quand, par exemple, il vous manque un bras, eh bien on dit que on continue d'avoir mal à ce bras qui manque ou à cette main coupée. Eh bien, c'est exactement ce que Solange Yvon Coudrieux ressent. Il lui manque une jambe à Yvon Solange Coudrieux. Et c'est cette douleur fantôme qu'il va évoquer jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, Guadeloupe, 1967.
Mai 67. Petit à moi déjà fin pour un fouette. Tes quatre travails ont été mal payés. J'ai décidé de revendiquer. Mauvais l'habitude qu'a résisté. Sauf savent qu'un bajouk à l'esclavage. Aussi amour n'était qu'à toucher. Revendiqué pas même parler. C'est 27 mai 67, à Baboudi, c'était l'air couette. La situation l'a déjà bien bandée, petit à moins par des vrais choulés. Mais quand même, déjà écrit, pas qu'à vraie raison, marchandé. Yo vin nous trouver, yo dépassé, yo décidé de crier l'armée. C'était en mai 1967, Guadeloupe est tombé assassiné. Joue sa prison pour mon papé, comme si ça n'a jamais existé. L'esprit a toujours tourmenté, faut déclarer la vérité. Vérité pour les martyriser, où y'a une trouvée sérénité. Où y'a une trouvée sérénité. Revendiquez pas même parler.
Donc, je m'appelle donc Solange Yvon Coudrier. À cette époque, j'étais professeur d'éducation physique, maître nageur sauveteur, et je me suis retrouvé à Pointe-à-Pitre ce vendredi 26 mai pour acheter un maillot pour ma mère. La fête des mères, c'était le 28 mai. Un maillot de bain. J'allais, au fait, inaugurer mon examen en amenant ma maman à la mer et commençant à lui apprendre à nager.
Ah.
Je commencerai. Oui. C'est pour cette raison que je me suis retrouvé ici.
Vous étiez devenu maître nageur. Et vous avez dit, je vais acheter un maillot de bain à ma mère pour lui apprendre à nager. Oui. Maintenant que je suis maître nageur.
Maître nageur. Parce que, s'il faut aller plus loin, maman avait eu un accident en mer. Elle avait eu peur de la mer. Et lorsque cet examen s'est présenté, j'ai dit, bon, je vais faire l'examen pour deux raisons. Ramener maman à la mer, puisqu'il faut aller à la plage.
Ramener ma mère à la mer.
Ramener ma mère à la mer. Et demander à mon maire de construire une piscine à Sainte-Rose pour apprendre aussi la natation aux jeunes et à tout le monde.
Oui. Et puis
donc je suis venu ici. Le magasin avec lequel j'avais rendez-vous était fermé. Donc, j'ai vu quelques gendarmes là. Je suis rentré chez moi. Et à 18h, un flash de Radio Guadeloupe disant que le calme est revenu à Pointe-à-Pitre. Donc, j'ai quitté tranquillement la maison des beaux-parents pour aller vers la mairie qui se trouvait sur l'assainissement, la nouvelle mairie de Pointe-à-Pitre. Le tort qu'on avait ce jour-là, c'est d'être sorti, d'avoir écouté RFO, qui disait que le calme était revenu à Pointe-à-Pitre. Là, on nous a envoyé dans la gueule du loup. Vraiment, on nous a envoyé à la boucherie. Tous ceux qui sont sortis à ce moment-là, c'était des gens qui avaient rien à voir avec la grève.
Vous n'aviez rien à voir avec la grève.
Je n'avais rien à voir avec la grève. Ça, je savais même pas qu'il y avait cette grève. Et cette grève, je répète, c'est une grève qui avait été déclenchée par les ouvriers du bâtiment, qui demandait 2% sur le traitement indiciaire brut. Nous avons reçu 2000 balles. Et ça s'est passé à côté, là, voyez-vous. La réunion a eu lieu avec les patrons à la Chambre de commerce et de l'industrie. Mais ça, je ne savais pas tout ça. Je ne m'y étais pas intéressé, j'avoue. Je ne m'y étais pas intéressé. Et à ma droite, j'ai vu un jeep et 3 voitures de militaires. J'ai dit, bon, je me suis apitoyé sur leur sort. J'ai dit, bon, ils regagnent la caserne. J'ai entendu une première détonation. J'ai dit, tiens, il y avait France Antilles qui brûlait. J'ai cru que c'était une vitre de France Antilles qui éclatait. Et j'ai entendu une deuxième détonation. À ce moment-là, je me suis senti soulevé de terre et je suis tombé et j'ai vu ma jambe droite qui était presque arrachée. Là, j'ai fait le mort. Je dis qu'il y a quelque chose, j'ai fait le mort. J'ai fait le mort parce que j'ai dit que celui qui a tiré sur moi était un tireur d'élite, ça c'est sûr. C'est ce qu'on m'a pris. Le dos, j'avais le dos tourné. Ils m'ont tiré dans le dos comme un lapin. Bon, j'ai fait le mort. J'ai fait le mort, je suis resté à terre et criant, demandant aux gens de venir me ramasser. Mais je vois, personne ne voulait venir me ramasser. Personne n'est venu.
Votre jambe était arrachée, vous n'avez pas perdu connaissance?
Non. Alors là, j'ai fait vraiment jouer ma force physique, ma force sportive. J'ai l'âme sportive. J'étais un professeur d'éducation physique et j'étais un sportif. Donc, c'est vrai, mon cœur est parti un petit peu à la chamade, mais j'ai fait la respiration contrôlée. Je n'ai jamais perdu connaissance, je n'ai jamais crié, je n'ai jamais pleuré. J'ai tenu, bon, j'ai dit qu'il faut pas que je reste à terre. Et on m'a ramassé.
87 morts, officiellement, chiffre reconnu par le ministre de l'Outre-mer en 1985, 87 morts. Mais pour le comité mai 67 qui s'est constitué, il y aurait beaucoup plus de victimes que cela. Là, on parle des morts, il y a eu des centaines de blessés. Et ce comité s'est tourné vers Ramayadeh pour demander la reconnaissance de ce massacre, le jugement et la condamnation des coupables, la réhabilitation des victimes et la réparation des préjudices. C'est une mémoire vive, c'est une mémoire douloureuse, et surtout, ce sont des événements inconnus, non plus, évidemment, non pas non plus des Guadeloupéens eux-mêmes, mais du reste du pays.
Lorsqu'on m'a ramassé, on m'a emmené un peu vers le noir, et là, les gens qui me connaissaient, c'est Solange, c'est M. Coudrieux, c'est Soso, enfin, on m'appelait Soso aussi, et les gens de ma commune. Et alors, on m'a embarqué dans une Dauphine. Parce qu'il faut vous dire que ce jour-là, les forces de l'ordre avaient bien reçu l'ordre de tirer sur tous ceux qui étaient noirs, qui bougeaient, en utilisant toutes armes. Et il n'y avait aucune sommation et aucun couvre-feu. Aucune sommation, aucun couvre-feu. Celui qui a tiré sur moi était un tireur d'élite, ça c'est sûr. C'est ce qu'on m'a appris. Je sais ce que je dis parce que je ne suis pas fier de ce que je vais vous dire, mais j'étais en Algérie, j'ai fait la bataille d'Alger, j'ai été formé comme militaire, et l'armée 58 m'a déterminé à ne pas rester dans l'armée française. J'ai vu trop de choses, j'étais jeune. Hein.
Vous étiez militaire, vous étiez engagé?
J'étais engagé, je voulais faire militaire. Je voulais faire une carrière militaire. Ah oui, j'étais engagé.
Et vous étiez engagé à cause de l'Algérie, parce que vous voulez que l'Algérie reste française?
Non. Non, c'est pas à cause de l'Algérie française. Non, oh non, de l'Algérie reste française, ah non. Mais on m'a envoyé en Algérie parce que je ne pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas refuser parce que j'étais un engagé. On m'a désigné pour aller en Algérie. Je ne pouvais que suivre. Hein. Mais moi, j'ai vu l'Algérie. C'était la répression aveugle en Algérie.
Vous étiez arrivé quand, en Algérie?
Je suis arrivé en Algérie en janvier 57.
Janvier 57.
J'ai fait, oui, 58, 59, 60. J'ai fait 4 ans de guerre. J'ai laissé en 61. Donc, j'ai fait surtout la bataille d'Alger. Mais enfin, moi, je vous assure que j'ai compris. Lorsqu'on nous a permis de prendre contact avec l'Algérien, j'ai compris cet homme-là. Et je suis content d'être allé en Algérie parce que j'ai vu ce que c'est qu'une guerre. La guerre est bien faite pour ceux qui ne la font pas, dit-on. J'ai vu ce qu'est une guerre. La réaction, la volonté, la ténacité, le courage d'un peuple qui veut arracher sa liberté et sa dignité humaine.
Et pourtant, vous étiez là comme militaire pour réprimer ce peuple.
Mais quand j'ai compris ce peuple-là, j'ai discuté avec ce peuple-là, je préfère vous dire que, oh là là, il fallait pas attendre sûrement pour réprimer qui que ce soit. Ah non.
Vous étiez au courant de la torture qui était pratiquée en Algérie à l'époque?
Je n'étais pas loin de la Villa Susini, monsieur. Mais si, on réprimait énormément. Comme ici, on essaie de casser du nègre en 67, on cassait des bougnoules. Ah, qu'est-ce qu'ils ont souffert à la Villa Susini? Oh oui, Susini. Ah oui. Quand un peuple combat pour sa liberté, on ne peut pas être contre. Les Algériens étaient vraiment considérés comme des sous-hommes. Ah oui, on crachait sur eux, on donnait des coups de pied. Ça n'était rien. L'Algérien n'était rien. Ce que j'ai vu, l'Algérien n'était rien.
Est-ce que vous faisiez un lien entre le sort des Algériens et le vôtre et celui des Guadeloupéens?
Mais bien sûr, monsieur, nous étions décolonisés. Nous sommes décolonisés. Pourquoi en Algérie, j'ai dit qu'un autre colonisé ne doit pas faire la guerre à un autre colonisé? Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais tiré sur personne. D'ailleurs, à la fin, j'ai fini la guerre, mon contrat, sans armes. Je dis, je n'ai rien fait aux Algériens. Il doit comprendre que je ne lui ai rien fait. Il comprenait aussi. Il savait que nous étions colonisés comme lui.
Après l'Algérie et l'Indochine, il fallait en finir. Hein. Il n'y a plus question d'avoir la mémoire. Il fallait casser une aile, casser toute possibilité de révolte à l'état embryonnaire.
Toi, les journées qui arrivent là, le gars nous descend. Il met prêt à canon avec les hommes. Il m'a dit qu'il y a passé. La radio, pour autant, parler de révolution, banni, couvre-feu. Ah, le couvre-feu, on s'en fout. Nous, nous avons hors de tirer sur les nègres comme sur les lapins. C'est dans la situation, la sage, mais qu'est la Guadeloupe?
J'ai songé, mais 67. À peine une année après, qu'est-ce que j'ai fait? Dit que c'était esclavé, mais qui dit qui fait?
Qu'on m'aime mort.
Donc, dis-moi que Babylone jouait. Ça va vrai parce que j'en ouillais. En entrant en presse, tout pour oublier. Presque fait coller les parents. L'armée légionnaire. Oui, armée chouillée. Les nègres caillotés à contrer. On bang assassin, il chouye yo. Tout ça l'air que calme moi. Avant, faut moi aïe. Crier.
Ah! C'est des légionnaires, c'est des tueurs. Pas préfet qui est là. Il y a des gens comme ça. La population là, qu'a représenté.
Un chavin d'un coup nous et il s'est trouvé malheureusement au mauvais endroit le 26 mai. Il a été tiré. En tout cas, le 27, comme ça se passe ici, il y a eu la véhémence. Une voiture d'équipe de rouge avec un fusil mitrailleur monté au-dessus. Ils se sont mis à tirer depuis l'entrée.
On a ordre de tirer sur les nègres comme sur les lapins.
Revenons à votre histoire, là. On vous a laissé pantelant sur le bord du trottoir.
Je suis resté pantelant sur la rue et on est venu me ramasser. Et lorsque l'ambulance est arrivée, parce qu'on tirait aussi sur l'ambulance, hein, on a tiré sur l'ambulance. L'ambulance est venue me ramasser et à ce moment-là, j'ai encore fait une respiration contrôlée parce que je sentais que ça partait. Il y avait quand même bien une bonne demi-heure que j'étais à terre comme ça et que le sang giclait. Mais là aussi, j'ai serré les dents, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est le sportif. Je dis, je ne dois pas laisser ma peau là. Il faut que je reste vivant pour témoigner. Et je suis arrivé donc à l'hôpital. Il faut amputer la jambe parce que quand on m'a soulevé, j'ai vu tomber des os et de la chair. Ensuite, on m'a mis sur un lit. Un prêtre est venu me donner l'extrême onction. Je lui ai dit, mon père, ce n'est pas aujourd'hui que je mourrai. Ensuite, l'infirmière qui est venue, je lui ai dit, je m'appelle bien Solange Yvon Coulouillet, sans X. Après, j'ai senti une grande fraîcheur et je ne peux pas dire ce qui s'est passé après. Je crois avoir pris connaissance 8 jours après, parce que mon cœur s'est arrêté 3 fois, hein, heureusement que c'était solide. Hein. Mais j'étais en forme. Hein. J'étais en forme. Je me préparais, monsieur, pour faire 24 heures de marche sur la place de la Victoire en 1967, au mois de mai même. 24 heures, je voulais tester ma résistance sur la place de la Victoire.
Sur cette place qui est devant nous, là, sur cette place circulaire qui est devant nous. Ah, c'était la veille de cet exploit.
L'avant-veille de cet exploit. Vous ne vous rendez pas compte, hein. Et puis tout a été cassé comme ça. Les forces, ici, monsieur, nous recevons les forces dites de l'ordre. C'est des forces de répression qui sont là pour réprimer. On nous a réprimés en 1910, on nous a réprimés en 1946, on a tiré sur nous. On nous a réprimés en 1952, on nous a réprimés en 1967. Il y a environ 200 morts, hein. Les parents enterraient leurs morts sans rien dire, parce qu'on a fait courir le bruit que ce sont des indépendantistes qui avaient tiré sur les forces de l'ordre. Et à ce moment-là, on est allé arrêter tous les jeunes du GONG, le groupement d'organisation nationale de la Guadeloupe, on les a arrêtés. Mais le GONG n'avait rien à voir au départ dans tout cela.
Le groupement des organisations nationales de la Guadeloupe. Voilà ce qui était visé ce jour-là en 1967. Les travailleurs du bâtiment, sans aucun doute, mais surtout, surtout, le GONG. On est en 1967, c'est-à-dire 5 ans après les indépendances. On est encore dans l'esprit des mouvements de décolonisation. On est dans l'esprit du réveil du tiers-monde. On est dans l'esprit de la révolution cubaine. Et si vous regardez une carte, après tout, la Guadeloupe est beaucoup plus près de Cuba que de Paris. Et se développe en Guadeloupe un mouvement indépendantiste qui a toute une histoire, mais qui à cette époque-là s'appelle le GONG, le G-O-N-G. Il y a quelques militants, ils ne sont pas très très nombreux, mais la France du général de Gaulle, ne veut pas de ça.
Alors, le GONG,
Julien Mérillon,
groupe des organisations nationales de la Guadeloupe,
historien,
voit le jour en 1963, en France métropolitaine.
Juste après les indépendances.
Et juste après que le général de Gaulle ait dissous le front anti-guyanais. Il faut dire que bon, en 1962, se crée un front anti-guyanais pour l'autonomie, avec un certain nombre de personnalités, Glissant, Albert Béville, etc. Et ce front essaie, après les indépendances et après l'indépendance de l'Algérie, de poser la question institutionnelle outre-mer, la question politique, et il essaie surtout de voir dans quelle mesure on peut faire évoluer les statuts et les régimes vers une forme d'autonomie relativement poussée. Ce mouvement est dissous par le général de Gaulle.
Il ne veut pas entendre parler.
Pour la bonne et simple raison.
L'outre-mer, c'est la France.
Voilà. Et au nom, bon, c'est une entreprise séditieuse, et ce mouvement dissout, donc, les Guadeloupéens qui sont là-dedans se disent, bon, mais écoutez, bon, nous, on va créer une propre organisation guadeloupéenne. Ils se radicalisent, parce que parmi eux, à l'époque, 62-63, il y a des anciens du contingent d'Algérie qui sont allés et qui sont revenus et qui ont vu ce qui s'est passé en Algérie et qui en ont conservé une rancœur extrême. Et donc, quand ils reviennent, ils se disent « Ah non, non, non... »
C'est-à-dire que les Guadeloupéens sont allés buter du FLN, voilà. Casser du FLN.
Bon, il y en a qui sont passés de l'autre côté, qui sont passés avec le FLN.
Oui.
C'est le cas de Roland Tesoro, c'est le cas de Sonny Rupert, il y a un certain nombre qui ont déserté, plus ou moins simplement, ceux qui avaient déjà une conscience politique. Et d'autres, bon, se sont retrouvés enrôlés, mais par le contact qu'ils ont eu avec le FLN, par tout ce qu'ils ont vu, ils sont retournés Ils sont retournés. C'est-à-dire que bon, dès lors, ils avaient pris une conscience de ce que c'était la colonie, la colonisation. Et ce sont tous ces gens-là qui contribuent à former le Gong en 1963. Donc, ce sont les anciens du Front Antillais-Guyanais, les étudiants de l'Association Générale des Étudiants de Guadeloupe et les anciens du contingent d'Algérie. Et ils forment donc le groupe d'organisation nationale. Et ce groupe naît et bien sûr, il va développer son activité à Paris et commencer à s'implanter en Guadeloupe. À partir de 65, et c'est là qu'il recrute Jacques Nestor. C'est là que toute une série de personnes, si vous voulez, bon, vont rentrer dans cette lutte. Bon.
Alors, il milite pour l'indépendance.
Oui, il milite pour l'indépendance.
L'indépendance totale.
L'indépendance. Le Gong est pour l'indépendance. Le Gong est très radical pour l'indépendance. Il est contre les élections. Ils disent que bon, les élections, c'est une base. Enfin, c'est un peu les slogans de 67.
T'es
la con, etc. Bon. Et on arrive effectivement à 67. Bon.
ORTF.
Les Antilles sont-elles à feu et à sang?
1er mai 1968.
Décembre 59, à Fort-de-France, les autorités décident le couvre-feu après des événements raciaux et des heurts entre policiers et manifestants, bilan 4 morts. Mars 61, les grèves qui paralysent le sud de la Martinique font 3 morts et de nombreux blessés. À Paris se forme le Conseil national de libération composé d'avocats et d'écrivains libéraux. Procès d'une vingtaine de jeunes Antillais. Par ailleurs, les associations d'étudiants affirment leur désir d'indépendance.
Moi, je crois que en 1967, dans son analyse, le gouvernement se dit, il faut en finir avec ce gong-là. Il sait très bien que c'est pas le gong qui est à l'origine de la grève des ouvriers du bâtiment, que c'est le mouvement syndical, même si il y a quelques éléments du gong qui gravitent autour, mais c'est un mouvement syndical. Et le gouvernement a décidé de frapper pour empêcher la progression du gong et des nationalistes d'une manière générale. Et c'est donc l'objectif qui est poursuivi en 1967. Je crois que bon, ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle les massacres coloniaux, comme Sétif, comme ce qui s'est passé à Madagascar. C'est-à-dire, il faut stopper un mouvement à la base, avant qu'il ne s'étende. Et c'est ce qui va avoir lieu en 1976. L'analyse que l'on peut en faire, c'est cela. Donc, le Gong en est victime. Alors, il en est victime parce qu'il perd d'abord un de ses militants, en la personne de Jacques Nestor, mais surtout parce que l'on procède à l'arrestation généralisée de tous les responsables connus ou pas connus du Gong. On en arrête ici, on en arrête à Paris, et l'objectif aboutit bien évidemment au démantèlement de l'organisation. Et c'est ce qui fait que bon, le Gong en tant que tel, si vous voulez, c'est une période très courte de l'histoire, mais c'est une période qui manifeste une espèce de basculement. On sort, si vous voulez, des logiques qui sont des logiques d'intégration, et on passe pour une fois à une logique de rupture. Jusqu'alors, si vous voulez, les logiques politiques étaient des logiques d'intégration. Et le Gong fait balancer,
c'est ça.
Si vous voulez, l'équilibre en disant que bon, mais il n'y a pas d'issue dans l'intégration. Notre issue, c'est la rupture, c'est l'indépendance. Et c'est la première fois que la question est posée en tant que telle.
Avant moi, la tenue, bon monde qui porte mon œuvre. Avant moi, la tenue, bon monde qui goûte pour liberté. Avant moi, y'a tant de papa, les répressions syndicales, on t'y lit, il y a un pays là, y'a un peu vivre qu'on déboit. Y'a qui ça? Pitak, pitak, pays la rassonde. Pitak, pitak. En gagout, c'était à Guadeloupe, puis peut raconter. Avant moi la tenue des jeunes, t'es qu'à filer en l'idée. Avant moi c'est nom du bout, j'ai un agon qui met en route. Bouillotte, vente et conscience, consigne conscience, mais pour un différé. Oui, oui, tout ça. Yo t'es qu'à filer en l'idée. Pitak, pitak, pays la rassemblée. Pitak, pitak, pays la rassemblée. C'était à Guadeloupe, puis il peut raconter. Tambour au loin, tini bon son, sans déjà savoir. Tambour au vrai, tambour au vrai. Tambour au vrai, ni sentiment, nous pas v'lait tendre. À l'écouter, dit bon midi, qu'on arrive en salutation. Bobine la rel, ça la manjolita, ça la manjolita. manjorita. Ça, ça, ça la manjorita. Ça qui t'a en sept ans. En gagout c'était à Guadeloupe, puis peut raconter.
Solange, finalement, de ces journées de 1967, qu'est-ce qu'il en est sorti? Quelle était l'ambiance après ces violences, après ces crimes?
Ah ben, ça s'est fait au détriment des indépendantistes. On a voulu à tout prix les casser.
Leur faire porter la responsabilité en disant c'est à cause des indépendantistes s'il y a eu une telle répression.
Alors, ça, personne ne voulait entendre de parler d'indépendance, encore moins de statut. Mais au fur et à mesure, les gens ont pris conscience que ce n'était pas vrai. C'était un fait du système colonial en 67. Et aujourd'hui, les gens ont pris conscience que c'est toujours le régime colonial qu'on nous impose de chez nous. Et nous ne méritons pas ça. Je pense que la France est ingrate envers nous. Mon arrière-grand-père a fait la guerre, mon père, mon grand-père, moi-même. Mais c'est pour la France. Si la France est ce qu'elle est, c'est grâce à nous aussi. Et en retour, vous nous méprisez, vous tirez sur nous à vue. Il avait l'ordre de tirer à vue, hein, c'est Képi Rouge. Il y a deux lois, il y a deux comportements. Un comportement quand on est en France et un comportement quand on est ici. Lorsque les fautes dites de l'autre qu'on envoie ici, ils ont le doigt sur la gâchette et la détente est facile. Je rappelle, je redis que on a tiré sur une 67 sans sommation ni couvre-feu. Et que le général Billotte, qui était maire de Créteil, était le ministre d'État, et M. Bolotte était le préfet de la Guadeloupe. C'est lui qui a donné l'ordre de tirer sur les gens. Et ironie de l'histoire, monsieur, le 26 mai 67, ce monsieur donne l'ordre de tirer sur nous, ce monsieur meurt le 26 mai 2008. Ironie de l'histoire, Bolotte, ironie de l'histoire.
La génération est ça qui tombait, ici là même. En mai 67, camarades, nous allons continuer à marcher en silence. Sans marcher à l'alignage, à trois générations sacrifices.
C'est la voix du dévoilement qu'on entend là. Cet homme sur un banc avec son mégaphone. Il est en train de dévoiler une mémoire enfoui. Et ça, c'est un phénomène qu'on rencontre souvent dans nos reportages, dans nos voyages, dans nos vies, tout simplement. C'est ces phénomènes d'occultation collective, d'enfouissement collectif de moments que tout le monde a vécu, dont tout le monde se souvient, mais que tout le monde occulte, dont plus personne ne parle. Et puis, il faut des années, et puis un jour, ça revient. Ça remonte à la surface comme une tache qu'on n'arrive jamais à effacer tout à fait. Le calcul qui voulait que, à Sétif, à Madagascar, on casse les choses dans l'œuf, eh bien, ça n'a pas marché, parce que aujourd'hui, l'Algérie est indépendante, Madagascar est un pays indépendant, la Guadeloupe est encore française, c'est la différence. Mais pour combien de temps encore, la question, qu'on le veuille ou non, est historiquement posée. On est avec toujours Solange Yvon Coudrieux, cet homme avec un prénom étrange, Solange Yvon Coudrieux, assis sur un banc, avec une béquille de chaque côté. Mais auparavant, on va revenir à Julien Merion. Julien Merion, qui est politologue et qui répond à sa façon, à la question qui se pose, comment cette histoire a-t-elle pu passer sous silence si longtemps?
Bon, alors, en termes de commémoration, au départ, mai 67 est commémoré, je me souviens la première année, en 1968, c'est commémoré, effectivement, par les survivants, par un certain nombre de personnes. Et après, ça tombe en désuétude. Certes, lorsque nous étions étudiants à Paris, on organisait quelques manifestations, mais c'était quand même relativement limité. Bon, ça touchait une fraction de l'immigration, la fraction militante. Même de retour ici, et lorsque les organisations indépendantistes ont voulu prendre en charge, il y avait quelques manifestations. La plus importante, c'était d'aller porter une gerbe sous la tombe de Jacques Nestor. Chaque année, ça se faisait. Il y a eu une année, une stèle avait été, en 77, je crois, apposée. On avait monté une stèle sous la place de la Victoire, qui avait été détruite d'ailleurs par la mairie, les autorités. Et finalement, lorsqu'on a fêté les 30 ans de mai 1967, c'est-à-dire en 1997, les organisations culturelles s'en sont emparées, à Kiyo en particulier, Et il y a eu toute une série de manifestations, de débats, de discussions, de témoignages. Et c'est là que les gens ont commencé à parler. Et on a remis ça sur le tapis à partir donc de 1997.
C'est toujours une histoire et, de la génération.
Voilà, a
toujours
une... Et en 2007, il y a eu là aussi un énorme... C'est là que cette fresque a été apposée. C'est à l'époque où, effectivement, toute une série de manifestations pendant toute une semaine se sont déroulées sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, que la question revient, ressurgit, refait surface aujourd'hui.
En Guadeloupe, un bas-relief de la révolte du 26 mai 1967 orne désormais la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre.
France 3, 28 mai 2007.
Le lieu même où une manifestation ouvrière pour l'évolution des salaires fut violemment réprimée. Il a fallu attendre 1985 pour que le gouvernement révise le chiffre de 5 victimes par celui de 87 morts officiels.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce que vous venez de dire là ? J'ai compris que la question... de l'indépendance en principe n'est pas posée aujourd'hui, mais enfin, elle est toujours là.
Elle
quoi.
Est toujours sous-jacente.
Elle est toujours sous-jacente.
Elle est toujours sous-jacente. Alors qu'est-ce qu'il en reste ? Bon, il en reste.
Est-ce que c'est pas maintenant le contraire ? Est-ce que c'est pas plutôt le gouvernement français qui souhaite cette indépendance ?
Apparemment. Hein ? Si on écoute Sarkozy, on dirait que. Non, mais je suis d'accord avec vous, si on écoute Sarkozy,
il y a une espèce de tournement. Pour De Gaulle, l'outre-mer, c'est la France.
Ouais.
Pour Sarkozy,
il y en a foutre.
Rien à foutre.
Rien à foutre.
Il ne sait pas où c'est.
Voilà, voilà. Rien à foutre. Donc, ce qu'il en reste aujourd'hui, bon, d'abord, il y a toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire, qui sont encore vivantes, hein, et qui se retrouvent au sein du COPAGUA, le collectif des patriotes guadeloupéens. Bon, on retrouve encore un certain nombre dans des organisations politiques qui ont connu leurs heures de gloire dans les années 80, le PLC en particulier, l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, qui a été une organisation extrêmement puissante à une période, mais il reste encore quelques résidus. Mais il reste surtout une empreinte. Et moi, je crois que c'est ça qui est important, c'est l'empreinte. Le mouvement social actuel, si vous voulez, est la conséquence directe du mouvement indépendantiste.
Voilà, voilà.
Il ne faut pas se cacher, il faut voir la face. C'est la conséquence. Bon, en analysant les choses de façon très objective, si vous voulez, il est dans la continuité de ce mouvement indépendantiste. Il est d'abord, sur le plan organisationnel, l'UGTG est né de la mouvance indépendantiste. L'UGTG, en tant qu'organisation syndicale, qui est la première organisation syndicale de Guadeloupe, qui représente 53,6% des salariés aux dernières élections Puy-de-Dôme, l'UGTG affiche très clairement que l'objectif fondamental, c'est l'indépendance nationale. Ça n'est jamais caché. Le mouvement a connu...
Parce que l'opinion n'est pas favorable à l'indépendance.
Je sais bien. Et pourquoi l'opinion n'est pas favorable ? L'opinion n'est pas favorable pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a eu ces années de violence, où il y a eu des bombes. Il y a eu toute une série d'actions qui ont effrayé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, qui ont effrayé les gens. Et donc, une partie de l'opinion, elle se met en retrait. Et elle est aussi parce que je crois que les dirigeants, les responsables indépendantistes n'ont pas été à la mesure, en tous les cas, de sortir un projet politique crédible qui ferait de l'indépendance une alternative partagée.
L'analyse du politologue Julien Merion à Pointe-à-Pitre. On revient donc à Solange Yvon Coudrieu, témoin, victime aussi des événements de mai 1967 en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, mais qui a aussi, lui, son point de vue poli, on peut dire, par le temps.
Vous vous rendez compte ? Les pas n'ont pas pu... évacuer ces événements de mai 67. Les parents n'ont pas encore pu faire leur deuil. Je ne peux pas encore faire le deuil de ma jambe. Les dossiers nous sont fermés. On n'ouvre pas les dossiers pour que nous sachions exactement ce qui s'est passé. Alors, il y a un ressentiment. Il y a un ressentiment de mai 67. Parce que c'est encore ce système colonial qui nous amène à faire perdurer une grève pour ne rien donner. On a cette même démarche quand on a la démarche était en 1967. La grève a duré parce qu'un patron a dit je connais les nés, quand ils auront faim ils viendront à mes pieds.
C'était vrai ça, cette phrase là?
Il a toujours démenti. Monsieur Brissac, un entrepreneur. Et nous sommes dans le même système. J'ai l'impression que les Français n'ont pas la culture de la décolonisation. Il faut toujours lutter. C'est par les armes qu'on arrive à arracher notre liberté. Et je n'exagère pas en le disant. C'est ce que nous vivons, monsieur.
Tout ce que vous dites là donne quand même envie. Moi, si j'étais Guadeloupéen, si j'étais un jeune Guadeloupéen qui écoute ce que vous dites, je me dirais, allons vers l'indépendance. coupons le cordon avec cette satanée France.
Oui. Alors là encore, je laisse cette place-là, cette réponse aux politiciens qui s'y connaissent mieux que moi. Mais rien à faire, il faut un changement. Ou l'autonomie, ou l'indépendance, mais nous devons maintenant avoir un changement. La départementalisation est arrivée au bout. Il faut un changement pour qu'on puisse nous entendre, pour qu'on puisse nous voir, pour qu'on puisse nous écouter, pour qu'on puisse admettre ce que nous voulons pour notre pays. Ce n'est plus la France qui doit choisir pour nous, monsieur. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donnez-nous des responsabilités. Nous pouvons prendre nos responsabilités. Ce n'est plus tenable, monsieur. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est que tout change. Donc, ça va changer, monsieur. Ça doit changer dans le calme, dans le respect, dans notre dignité. Mais ça doit changer. Et ça changera, monsieur. Ça changera.
Camarades, nous allons continuer à tourner à l'entour à la place. Sacrifice à ça qui tombait, à génération à ça qui tombait, ici là même, en mai 67.
Solange, on a oublié, ça fait drôle d'appeler quelqu'un Solange, mais on a oublié quand même la chute de l'histoire, c'est que vous étiez parti acheter un maillot de bain à votre mère pour lui apprendre à nager. Est-ce que finalement, vous lui avez offert le maillot de bain et finalement, est-ce que votre mère a appris à nager?
Non. Ah oui, c'est ça le regret. Non seulement je n'ai pas pu acheter le maillot de bain pour maman parce que ce magasin était fermé, mais le soir, on a tiré sur moi, j'ai perdu ma jambe droite. Et après, évidemment, j'ai été envoyé à l'hôpital en France pour me rééduquer, pour avoir un appareillage. Non, maman n'a pas eu le temps d'apprendre à nager.
Elle n'a jamais su nager.
Nous sommes allés une fois à la mer, à Cluny, mais je ne pouvais pas. On a essayé, mais je ne pouvais pas. Comme je suis déséquilibré, je ne pouvais pas la tenir pour lui permettre d'apprendre à nager. Elle est sortie, elle m'a dit, eh bien, tant pis, Soso, tu as fait l'effort. Maman te remercie. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la fin. On a essayé une fois, mais ce n'était pas possible. Je lui ai payé son maillot après, oui, on a eu un maillot. Je lui ai payé un maillot bleu, parce qu'elle a conservé longtemps ce maillot. Je me demande s'il n'est pas encore là, je fouillerai dans tout son linge pour voir s'il ne retrouve pas. Et puis, je n'ai pas encore dit la jambe droite quand même. Je dois vous rappeler que lorsque le maître prenait l'esclave qui se sauvait, il lui coupait la jambe droite. Et lorsqu'il prenait celui qui avait volé pour améliorer sa mécpitance, il lui coupait le poignet droit. Pourquoi je dis ça? Nous étions trois jambes droites dans différents coins de la ville. Trois jambes droites. Donc ils avaient bien reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui était noir et qui bougeait, en utilisant toutes armes et sur des jambes droites. Nous étions trois jambes droites dans différents coins de la ville. Ce n'était pas innocent.
Avant moi t'es point godomi la grève la barre et j'suis même moi sorti la matin au moins descend en ville. Avant moi t'es point godomi la grève la barre et j'suis même moi. Malgré tout ça, yo fait à messieurs Michel par les bails de front. Yo brûlé canbeke, yo incendie habitation yo. Malgré tout ça, yo fait à messieurs Michel par les bails de front. Thank you.
C'était un reportage avec Antoine Chao du 4 mars 2009. Merci à Solange Yvon Coudrieux, ainsi qu'à Julien Mérion, Paul Tomiche et Pierre Luce, et David Clarin, Robert Dieupart, Gérard Tourtrol. Mais toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Anne-Charlotte Guilhem et Loïc Frapsos, réalisation Koyen Guyen et Raphaël Mouterde, assisté d'Agnès Le Bot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
Là-bas si j'y suis.
Oh,
Polignac, vous êtes chef. Votre conseil pour choisir un bon foie gras?
Pour moi, c'est un foie gras du Sud-Ouest. C'est un produit magnifique en version originale. Pour choisir un foie gras du Sud-Ouest, lisez l'étiquette, tout simplement.
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest. Quand c'est écrit, c'est garanti. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Aquitaine.
Akin, Julie, Sonia,
Jacques,
Christelle. Christelle ne jure que par le sur-mesure. Tout doit s'adapter à elle et pas l'inverse. Du coup, elle tricote des bonnets, des écharpes, des pulls, juste pour elle, juste pour être belle. Et pour sa santé, c'est pareil. Christelle veut du sur-mesure.
C'est parce que l'assurance maladie vous connaît bien qu'elle a mis en place Amélie Direct, le service qui vous permet de choisir les professionnels et établissements de santé adaptés à vos besoins. Pour trouver leurs adresses et tarifs, consultez le service Amélie Direct sur amélie.fr. A-M-E-L-I. L'assurance maladie.
Après les informations, on retrouve Carrefour de Léon. Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Le Flash vous est présenté par Arnaud Poulard, bonjour.
Bonjour, 25 morts, une cinquantaine de blessés dont beaucoup sont dans un état critique. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Pakistan après un attentat survenu ce midi à Karachi au sud du pays. Un kamikaze s'est fait exploser lors d'une cérémonie chiite. Hier, un précédent attentat avait déjà fait 7 morts devant un centre de prière chiite au Cachemire pakistanais. En Afghanistan cette fois, 10 civils dont 8 écoliers ont été tués dans une opération des forces de l'OTAN dans l'est du pays. Hier, pourtant, un porte-parole des forces de l'OTAN avait affirmé à l'agence France-Presse qu'aucune opération n'avait eu lieu ce week-end. L'Union européenne se dit consternée, tout comme le HCR, le Haut-Commissariat de l'ONU. Les autorités thaïlandaises ont commencé aujourd'hui l'expulsion de plusieurs milliers de réfugiés Hmong. Cette ethnie minoritaire d'Asie du Sud-Est était réfugiée dans des camps depuis la fin de la guerre du Vietnam. À l'époque, une partie d'entre eux s'était ralliée aux Américains contre les communistes. Aujourd'hui, la communauté internationale s'inquiète du sort qui leur sera réservé au Laos. Dans l'actualité également, elles pourront fêter le nouvel an en France et en famille. Les deux jeunes françaises qui ont été libérées la semaine dernière en République dominicaine seront de retour mercredi, condamnées à 8 ans de prison pour trafic de drogue, ce qu'elles avaient toujours nié. Elles ont été graciées par le président dominicain. Le secrétaire d'État français Alain Joyandet est arrivé sur place aujourd'hui pour organiser leur retour. C'est une première estimation qui ne devrait pas faire polémique. L'opération de sauvetage des 3 spéléologues bloqués dans un gouffre des Pyrénées-Atlantiques ce week-end a coûté entre 30 000 et 50 000 euros. Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, estime que les spéléologues n'ont pas commis d'imprudence. Ils ont pris la poudre d'escampette, mais sans butin. Ce matin, plusieurs hommes ont tenté de braquer un fourgon blindé à Gentilly dans le Val-de-Marne, mais l'opération a tourné court. Après avoir tiré plusieurs coups de feu, les malfaiteurs se sont enfuis sans réussir à voler d'argent. C'est le deuxième braquage de ce type en France depuis le début de l'année. Quelques mots des transports en France. Avec le retour à la normale sur la ligne A du RER, la grève des conducteurs a pris fin ce week-end. Par contre, une autre grève a débuté, cette fois sur le réseau banlieue Paris-Saint-Lazare. Le trafic est perturbé. Enfin, concernant la ligne C, une semaine après le déraillement d'un TER, la circulation des trains s'améliore peu à peu. La SNCF annonce 8 trains par heure au lieu de 6 précédemment. Enfin, on termine avec du sport, du ski et le premier podium de Coupe du Monde pour Taina Barrios. La France a terminé troisième du slalom géant de Lienz en Autriche, une course remportée par l'Allemande Holzel.
Allô la planète, Eric Lange.
On s'est déjà parlé, je ne sais plus où vous étiez.
J'ai en quelque sorte devant moi une page blanche.
Donc c'est une occasion d'aller voir et de rendre compte.
Vous êtes parti comme ça sans vous poser de questions.
Tu peux aller où tu veux, c'est toi qui es le maître du monde.
Moi le soir j'adore rentrer du boulot et puis vous écouter, j'aime bien.
Vous m'aurez tout fait dans cette émission.
Je vous laisse, j'ai des copains qui arrivent.
Il faut aimer les déserts, il faut aimer le vide, l'immensité.
Vous nous passerez un petit coup de fil de là-bas.
Allô la planète, Eric Lange, France Inter. France Inter.
La différence.
16h03 sur France Inter, place au carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour. Carrefour de l'Odéon. We'll be right back.
Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme après le réveillon, ou alors parce que vous avez travaillé pendant ce temps-là, pendant que les autres s'amusaient. Eh oui, de toute façon, il faut récupérer. Hein. Comme un lundi, on dit, c'est pas souvent faux. Eh ben voilà, pour avoir un peu de tonus, je vous propose de fréquenter Emil Waldteufel, ou Teufel, comme vous voudrez, Waldteufel, alsacien, qui a choisi sa nationalité, d'ailleurs, quand le traité de Francfort en a laissé libre les Alsaciens, après la guerre qui nous a amputés d'une partie est de notre beau pays. Et Emil Waldteufel a été représenté par un pianiste français qui s'appelle Alexandre Sorel, qui a écrit le livret et puis qui joue aussi les pièces charmantes pour le piano. C'est un double CD INA Radio France qui est réédité ces temps-ci. Alors voici un peu de la vie de ce personnage, ce Strauss français comme on l'a dit. Et il débute le personnage à Strasbourg. Son père était un petit violoneux, un peu misérable de cette région-là. Et puis lui, il a grandi. Il est allé jusqu'au conservatoire, mais bien au-delà.
Connaissez ?
C'est le Ciné Club.
Oui, mais le compositeur de cette musique ?
Non.
Et ça ?
Une valse du spectacle Holiday on Ice, les patineurs.
De qui ?
De Strauss, peut-être ?
Non.
Où voulez-vous en venir ?
Eh bien, ceci. Je pourrais vous faire entendre des dizaines de valses. Elles sont connues et souvent, on les attribue au grand Johann Strauss.
On ne prête qu'aux riches.
Oui, mais c'est injuste. Le compositeur qui a écrit tout cela...
Comment s'appelle-t-il ?
Emil Waldteufel.
Je ne connais pas.
C'est là l'injustice. Personne ne le connaît. On ne connaît que son œuvre.
C'est l'essentiel.
Oui, mais l'homme. Qui était l'homme ? Qu'a-t-il fait ?
Et vous vous êtes mis en tête de le réhabiliter.
En tout cas, de mieux le connaître. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Il s'agit de mener, si vous le voulez bien, une véritable enquête de police. Cela ne vous tente pas ? À la recherche d'un illustre inconnu ?
Je vous vois très excité. Alors voilà ce que je vous propose. Vous vous chargez de l'enquête sur le terrain et nous essaierons de reconstituer le puzzle ensemble.
D'accord. Je crois qu'il faut remonter à la source d'abord. L'Alsace.
Où est-il né exactement ?
À Strasbourg.
Eh bien, allez-y.
Nous lisons sur ce registre d'un papier très épais. Déclaration faite à l'hôtel de ville de Strasbourg, département du Bas-Rhin. Par devant l'officier de l'état civil à 2 heures de relevé, le 11 décembre 1837, de la naissance d'un enfant qui lui a été présenté et dont le sexe a été reconnu être masculin. Né en légitime mariage, le 9 du mois courant, à 2 heures du matin, est nommé Charles-Émile. Déclarant Lazare Lévy dit Waldteufel, âgé de 37 ans, domicilié en cette mairie, profession artiste musicien. Père de l'enfant, le susdit déclarant. Mère de l'enfant, Flora Neubauer.
C'est ainsi qu'au numéro 37 de la Grand Rue à Strasbourg, naquit Emil Waldteufel, celui qui composa cette célèbre valse des patineurs. Ah, cette valse des patineurs, combien nous est familière cette mélodie. Universellement chantonnée, sifflée, dansée, il n'est que d'en suggérer 3 notes, un soupçon de phrase, pour que s'amorce un sourire, que s'esquisse un mouvement de danse, une arabesque de la main. Tenez, essayez auprès de vos amis, écoutez. Do.
De qui donc est cette valse, madame, monsieur? Elle est d'Émile Waltrieffel. Mais, commençons par le début. Quelques mois avant la naissance du petit Émile, il s'était produit un curieux présage. Le grand Johann Strauss, le père, sur le chemin de Paris, fait une étape à Strasbourg avec ses 26 musiciens.